Ce matin, c'est un peu spécial. On fait un petit, on va vous plonger ce matin dans qu'est-ce qu'on a fait avec la jeunesse depuis le mois de janvier. En fait, on a fait l'étude du livre de Jacques, de la lettre de Jacques, et on va faire la conclusion ensemble ce matin. Et avant ça, je vais prier brièvement encore. Juste, Seigneur, on veut te remercier. Te remercier de nous réunir ici ce matin. Te remercier de ce que juste on peut te célébrer, de ce qu'on peut être, avoir le souffle de vie. Puis je veux te prier que tu puisses rencontrer nos cœurs ce matin. Que tu puisses enlever les distractions, puis enlever aussi toutes les choses qui pourraient venir obscurcir nos cœurs pour qu'on soit centré sur toi uniquement. Et merci encore une fois pour ta vie versée pour nous et d'être vivant dans nos cœurs. Et avec ton Père, auprès de ton Père. Et on te prie dans le nom précieux de ton Fils Jésus. Amen. Et est-ce qu'il y a des amateurs, y a-t-il des jardiniers dans la salle? Des jardiniers, Simon, hein? Oh, on a un projet de retraite pour Benoît, jardin, et... Le jardin communautaire aussi qui a repris, qui a recommencé, c'est le fun de voir la vie, le printemps, le soleil. Je suis sûr que je suis pas le seul à partager cette joie-là, de voir la neige fondre puis la vie reprendre. Et moi particulièrement, un de mes plaisirs du printemps, c'est les asperges. Je sais pas, je suis mitigé, les asperges, je sais que c'est soit que tu détestes, soit que tu aimes, mais comme premier, les asperges du Québec, comme premier un peu fruit de la... premier légume qui pousse tout le temps, moi j'attends ces légumes-là avec impatience, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à manger celles qui viennent du Pérou ou du Mexique, pas qui sont... c'est juste le voyage, il y a une fraîcheur qui est perdue, puis il y a comme rien comme une bonne tomate, une tomate que tu as cueillie, puis là, tu peux quasiment croquer comme une pomme, tellement que c'est sucré et juteux. Mais ça prend pour faire un jardin. On est béni, on peut acheter nos choses à l'épicerie, mais faire un jardin, ça demande beaucoup d'amour, beaucoup de patience. Il y en a qui le savent. Et moi, mes souvenirs d'enfance, ma mère faisait un jardin aussi, puis il y avait toujours ces semis qui traînaient tous les bords de fenêtres de la maison. Wow, c'est bien dit ça! Ça vient embellir la maison d'avoir tout plein de pots, des petites semences qui sont là, toutes fragiles dans la terre, qu'on attend qu'ils sortent. Puis que ma mère me disait, il ne faut jamais mettre les semis dans la terre avant la fête des patriotes et de la reine, parce que ça va geler. C'est ça. Il ne faut pas que le sol gèle, il faut attendre qu'il n'y ait plus de gel. Et donc, chose certaine aussi, avec notre foi qui est un peu comme plantée comme une graine dans la terre et qui, en ce moment, ça prend beaucoup de patience et de persévérance dans un jardin pour en récolter le fruit. Et avec notre foi, c'est dans plus tard qu'on va goûter aussi la joie, plus tard qu'on va goûter la joie de récolter le fruit de notre foi. Et c'est Jacques comme qui s'adresse, c'est comment persévérer dans la foi, dans cette attente-là, dans l'attente de voir c'est quoi qui va pousser, puis c'est de pouvoir gagner, de courir la course et de remporter le prix sans de savoir par la foi qu'il y a quelque chose qui nous attend. Et Jacques, c'est un livre que j'aime particulièrement, puis il parle de la foi. il parle de la foi dans tous les chapitres, mais surtout c'est un peu comme une sorte de lettre qui sert de manuel pour la vie chrétienne. Il aborde plein de thèmes, il aborde les conflits, il aborde les paroles, il aborde tout, il aborde aussi les querelles, j'ai dit, et comment comme les riches, le favoritisme, il y avait du favoritisme dans l'Église, il y avait plein de choses dans les communautés de croyants, puis il vient confronter la foi que il s'adresse, Jacques s'adresse à des croyants qui sont les Juifs dispersés, merci André, des Juifs qui sont dispersés hors de la terre promise, et là qu'il vient les encourager en disant comme de venir leur montrer c'est quoi la source de leur foi, c'est quoi l'origine de leur foi, et est-ce que leur foi est simplement une simple croyance? Une simple croyance et qui est sans vie, ou la foi, ou bien que la foi, c'est quelque chose qui est juste une croyance, ou c'est quelque chose qui est vraiment vécu, c'est quelque chose qui est vraiment quelque chose qui vient transformer le cœur. Et parce qu'on s'entend quelque chose. Il dit, la foi sans les œuvres est morte. Parce que c'est impossible que quelque chose soit vivant et qu'il ne produise aucun fruit. C'est impossible que quelque chose soit vivant et qu'il ne produise aucun fruit. Fait que là, Jacques, il les confronte. C'est quoi le fruit de votre foi? Et, justement, au chapitre 5, le dernier chapitre qu'on va lire ce matin, dans la première section du verset 1, à 6, Jacques donne une première exhortation à un groupe spécifique des riches qui utilisaient mal leur richesse. Puis Jacques, il ne mâche pas ses mots. Il vient condamner, il abuse de leurs employés, ils prennent le salaire et ils vivent dans le plaisir, dans le luxe, pendant que leurs ouvriers en souffrent. Et là, Jacques condamne ça. Et là, il vient leur dire... Le Seigneur a entendu le cri de vos moissonneurs. Il a entendu, c'est parvenu jusqu'aux oreilles. Et là, au verset 7, où qu'on va commencer ce matin, il fait un appel à la patience, à ses frères-là, frères et sœurs, d'être patients jusqu'au retour du Seigneur, parce que la foi porte fruit. D'être patient parce que la foi porte fruit malgré les injustices. Et donc, on va commencer au chapitre 5, au verset 7, ensemble. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur. Il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients. Affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici que le juge se tient à la porte. Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience, dans la souffrance, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. On va s'arrêter ici pour le moment. Patiente. Alors qu'il dit, patiente, la foi porte fruit. Et le motif pour cela qu'il dit, c'est quoi le motif qui appelle le croyant à être patient? C'est le retour du Seigneur. On n'a pas à être désespéré puis à être envahi par les choses qui se passent ici-bas parce que le Seigneur revient, frères et sœurs. Le Seigneur, il revient. De quoi craindre lorsqu'on le sait, qu'on a cette espérance vivante-là, que peu importe ce qui arrive sur terre, il n'y a rien qui change notre statut au ciel. Et donc, à trois reprises, c'est l'avènement, c'est le retour du Seigneur. Nous devons patienter. On peut patienter parce que le Seigneur y revient bientôt. Et c'est là qu'est la source de notre persévérance comme croyants. Et je dirais même particulièrement aux ados ce matin qui sont là, qui sont encore tout frais, tout jeunes, et qu'il va y avoir des choses qui vont vous arriver plus tard. Peut-être que vous n'allez pas comprendre. Puis je suis pas mal convaincu qu'il y en a beaucoup ici dans la salle qui ne comprennent pas plein de choses qui se passent, des épreuves. Eh bien, on n'a pas à tout comprendre. Mais l'assurance qu'on peut avoir dans ces épreuves-là, c'est la foi que Jésus revient. Et Jésus va faire justice aussi. Le cri de vos moissonneurs est parvenu aux oreilles du Seigneur. Le Seigneur n'est pas indifférent. Il entend. Il entend. Et c'est pourquoi il appelle aussi à ne pas se plaindre. On n'a pas à faire entendre nos plaintes à gauche et à droite. Si le Seigneur il nous entend, on n'a pas à faire entendre toutes sortes de plaintes. Et moi le premier, trop chaud, trop froid, pas assez, si, pas assez ça, ou bien, mais entre nous surtout, regarde, telle personne me fait ça, l'autre me fait ça. Non, oui, on va le remettre au Seigneur ensemble, mais on n'a pas à se plaindre les uns contre les autres. Surtout, il parle, Jacques parle de jugement. Nos paroles ne sont pas à être prises à la légère. Il y a rien qu'on dit qui est sans... qui est sans, tout ce qu'on dit a un effet. Il n'y a rien qui est sans effet. Puis, le Seigneur est proche. Donc, je ne veux pas... Combien je serais attristé, puis combien je suis attristé de savoir de plaintes que j'ai pu faire. Puis là, le Seigneur est à la porte. Et je ne veux pas me présenter devant Dieu avec des plaintes dans mon cœur, surtout contre des frères et des sœurs. Notre chialage national. Mais si quelqu'un nous fait du tort, pas d'être naïvement comme bonasse, c'est pas ça qu'il dit, naïvement bonasse, puis peu importe, de subir les injustices pour le fun de subir des injustices, mais non, mais c'est l'attitude qui appelle à faire la patience. Patience, le Seigneur entend, et ne jugez point. Et le Seigneur, il nous a dit. Seigneur, il s'en occupe. Seigneur, lui, il a une justice qui est parfaite. Et c'est ça qui nous permet de persévérer. Et là, peut-être, Seigneur, est-ce qu'il y a quelqu'un en ce moment que je suis dans mon cœur en train de pointer du doigt? Et que, Seigneur, je te demande pardon de penser, vouloir faire ma propre justice, de vouloir pointer du doigt. Aide-moi à regarder à toi. Aide-moi à regarder à, justement, tu reviens, tu t'en occupes. C'est entre tes mains. Et deuxièmement, la patience, patiente, la foi porte fruit. Et toutes les injustices, ici-bas, ce n'est plus jamais la finalité. Jésus vient faire une justice parfaite. Et c'est ce qui nous amène à aussi persévérer. On peut persévérer dans l'épreuve parce que le Seigneur revient bientôt. Et persévère, la souffrance aussi a un but. Que Jacques nous dit. Et je ne sais pas si tout le monde connaît l'histoire de Job. Job, que Jacques va nous parler aussi, on va lire, on va continuer au verset 11. Nous disons, donc, mes frères et sœurs, prenez, au verset 10, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons, heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Car le Seigneur plein de tendresse, plein et de compassion. Avant tout, mes frères et sœurs, ne jurez pas, que ce soit par le ciel, par la terre ou par une autre forme de serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Et je voulais qu'on s'attarde ce matin à l'histoire de Job. Persévère, la souffrance a un but. Et Job, qui était, comme pour ceux qui sont moins familiers, un homme intègre, juste, qui craignait Dieu. Il y avait, donc, le début du livre nous montre que Dieu a un dialogue avec Satan. Et parce qu'en fait, Satan, il dit, bien, de toute façon, Dieu, Job, il te suit. Job, il persévère parce que tu lui donnes tout. Tu lui donnes tout. Il t'aime parce que tu le bénis. Si tu enlèves telle et telle chose, tu vas voir, il va te maudire, il va te rejeter. Job, ça a été une vie très intense qu'il a vécue. Il a maudit le jour de sa naissance, il a souhaité être mort même, pensant que Dieu l'avait abandonné, accusant Dieu d'être cruel. Puis là, il y a ses bons amis qui viennent le voir et qui disent, « Ce qui t'arrive là, ben, c'est de ta faute. T'es responsable de tout ça. C'est à cause de toi que tout ça, ça t'arrive. Tu le mérites. Tu mérites tout ce qui t'arrive. » Les méchants, bon chum, mais en tout cas, je veux dire, quelqu'un qui... Ça, c'est un signe peut-être de vous éloigner de ces personnes-là. Mais la question qui reste en suspens, c'est pourquoi un Dieu d'amour, pourquoi un Dieu bon et juste permet-il le malheur dans nos vies? La souffrance qui semble des fois rester même silencieux. Et l'histoire de Job nous montre justement que Dieu n'est pas indifférent aux souffrances. Il nous montre au contraire que c'est possible de garder la foi et de persévérer même après avoir tout perdu. Parce que Dieu n'est pas seulement un juge qui vient pointer du doigt, un juge qui vient condamner. Évidemment, tout péché doit être condamné. Il ne peut pas laisser le péché impuni. Mais l'histoire de Job nous montre qu'avant tout, Dieu, il veut être un père pour nous. Le Seigneur, il est un père. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et plein de compassion. Job se croyait juste. Job se croyait juste devant Dieu. Il dit, Seigneur, pourquoi toutes ces choses-là m'arrivent? Pourquoi tu permets ces choses-là? Moi qui t'ai suivi toute ma vie, moi qui ai fait toutes les bonnes choses, qui ai donné, fait mes sacrifices, même pour moi, même pour mes fils. Et que là, il arrive devant un constat à la fin du livre de Job. À la fin. C'est juste au moment où est-ce qu'il a compris sa folie de se penser juste devant Dieu. Du moment qu'il a compris sa folie, qu'il a arrêté de se plaindre, qu'il s'est humilié devant le Créateur de l'univers, celui qui a créé le ciel, la terre, qui a mesuré l'eau dans les océans, chaque grain de sable et mis les étoiles, qui tient le monde entre ses mains. Est-ce que tu étais là, Job, quand que j'ai fait ces choses-là? Pas d'une façon... Pardonne-moi, Seigneur, si je te présente comme façon arrogante, loin de là, mais tu veux nous amener par amour. Pas arrogant du tout. Il a vu Job, par contre, du moment où il s'est humilié, c'est juste là qu'il a pu voir Dieu pour qui il était vraiment. Non pas le Dieu qui s'était fait dans sa tête, ou le Dieu qui devait lui donner ce qu'il méritait, mais le Dieu plein de tendresse et de compassion. La souffrance dans ses souffrances, Job a pu voir Dieu. Et c'est ça. La souffrance a un but. Le but de manifester Dieu. Dieu veut se manifester, se faire connaître au travers de la souffrance, et particulièrement la nôtre. Et c'est justement au travers, pour moi personnellement, quelque chose qui a été la plus difficile, ça a été le divorce de mes parents. Je ne comprenais pas comment Dieu peut permettre ça. Comment peut ma famille être brisée? Mais c'est dans cette souffrance-là que mon père a rencontré Dieu. Sans cette souffrance-là, mon père n'aurait peut-être jamais vu son besoin. Son désespoir et le mien aussi, des années plus tard, avec des mélanges d'amertume, d'incompréhension, de toutes sortes de choses. Et le Seigneur, il les voit. Et c'est pas pour nous condamner, mais parce qu'il veut se manifester. Il veut se montrer à nous. Jésus, le Seigneur, il nous le dit. Heureux les pauvres en esprit. Pas ceux qui sont moins intelligents. Heureux les pauvres en esprit, ceux qui reconnaissent leurs besoins. Ils reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Pourquoi ils sont heureux? Parce qu'ils verront Dieu. Heureux les pauvres en esprit, parce qu'ils verront Dieu. Et vous avez vu et entendu parler. Vous savez, j'ai pas eu la joie et le même privilège que plusieurs d'entre vous de pouvoir côtoyer et connaître cher monsieur Dugré, qui est allé rejoindre son Sauveur cette année dans la gloire. J'ai pas eu ce privilège autant que vous. Mais ce Dugré, il était cultivateur. Il a travaillé fort pour sa ferme, pour voir le fruit de ses récoltes. Année après année. Des températures, toutes sortes de températures, toutes sortes de conditions. Le fermier, le cultivateur, il travaille fermement dans l'attente de récolter. Il persévère, prend soin de sa récolte jusqu'à temps qu'il en prenne le fruit. Mais mes amis, quelle joie aujourd'hui de savoir qu'il en a récolté le fruit. D'être dans la présence de son Sauveur. Dans la maladie. D'avoir toujours resté aussi ferme, homme de foi, joyeux, même dans la maladie. Aujourd'hui, je peux juste rendre gloire à Dieu. La souffrance a un but. Et vous avez entendu parler des modèles de patience dans la souffrance que le Seigneur, qui ont parlé au nom du Seigneur. Mais peu importe les épreuves et les injustices que vous traversez en ce moment, Dieu a un but. Et il veut se montrer à vous. De montrer à vous comme plein de grâce, plein de compassion, plein de tendresse. Et c'est pour ça un appel à regarder au modèle que Dieu nous donne. Il y en a plein qui sont autour de nous. Et chers ados, trouvez-vous un modèle qui va être avec vous, qui va vous aider dans vos épreuves, qui va vous aider justement à voir la tendresse et la compassion de Dieu, quand que ça le sera peut-être moins évident. Chacun d'entre nous, Trouvez-vous. Trouvez-vous quelqu'un. Les souffrances sont temporaires aussi. C'est pas facile, mais les souffrances sont temporaires. La gloire, elle est éternelle. Donc, prenons patience dans nos épreuves. Persévérons. Persévère. On va pouvoir trouver la joie de voir Jésus à la fin. Trouver la joie de le voir, lui. Vous avez vu c'était quoi que le Seigneur avait. On peut persévérer. Et justement, si on ramène au chapitre 1, c'est tellement, tellement bien dit. Au chapitre 1, il dit justement, « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir été éprouvé, et après, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Et le Seigneur, il veut nous, des fois, il nous fait passer par toutes sortes de chemins, mais il veut nous rendre persévérants, en sachant que, plus qu'on éprouve une chose, plus qu'elle se renforcit. Mais ça nous humilie aussi, parce qu'on reconnaît notre faiblesse humaine, mais ça nous permet de voir la grandeur infinie de Dieu. Et des fois, quand les choses ils font moins nos affaires, puis que justement, il arrive plein de choses, on a tendance à chialer quand les choses ils vont mal, il y a des choses qui viennent nous chercher, puis on peut des fois dire des choses qu'on peut regretter après, quand on est justement impatient, souvent. En tout cas, je suis peut-être tout seul. Mais oui, hein? Mais, OK, j'ai pas mis le verset 12. Ah, il est avant. Mais ne jurez pas, faites pas de serment. Faites comme, je te jure, je vais faire ça. Je te jure que je vais changer. Je te jure que si, ça. Mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quand on dit quelque chose, c'est parce qu'on sait qu'on va le faire. Et finalement, dans la dernière partie de Jacques, quoi faire dans la souffrance? Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans la souffrance? Bien, Jacques, il nous dit qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Bien, qu'il prie. Demandez de la prière. Quelqu'un est-il dans la joie? Bien, qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Et il y a beaucoup de choses ici, là, peut-être, qui vous suscitent des questions, comme à savoir, c'est quoi l'idée de l'huile au nom du Seigneur, les anciens. Je sais que j'ai vu, je pense que c'est une dizaine d'années de ça auparavant, il y a eu une série qui a été faite sur Jacques, qui a été Jacques 5, je pense que Benoît puis Joël qui l'ont abordé. Si vous voulez aller voir sur ces questions-là plus précisément, vous pouvez aller voir sur le site, toutes les références sont là. Mais moi, c'est une chose que je voulais plus qu'on s'attarde ce matin, c'est espère, parce que la prière change les choses. La prière change les choses. C'est pas juste des mots qui s'en vont en l'air. La prière dite avec foi n'est jamais sans fruit. Pas que toutes mes prières vont être répondues comme dans le sens que je veux qu'ils soient répondues. Mais la prière change réellement des choses. Dieu entend et Dieu agit. Et au lieu de faire naître des plaintes, que notre souffrance fasse naître des prières. Quelqu'un, parmi vous, est-il dans la souffrance? Moi, je m'engage, quand qu'on commence à chialer sur une situation, on prie. Tu veux-tu qu'on prie ensemble? Peux-tu qu'on prie ensemble, juste mettre ça dans la perspective de l'éternité, que le Seigneur il s'occupe de tout ça, puis qu'il est bon et qu'il va régler les choses. Que nos plaintes soient transformées en prières. Parce que c'est pas nouveau, hein, quand on va cueillir des pommes l'automne dans un verger, ben, on cueille des pommes. Les pommes poussent sur les pommiers, puis les oranges, ils poussent sur les orangers. Fait que les plaintes, si je donne des plaintes, ben, hein, ça va comme faire pousser poup, plus de plaintes. Évidemment, c'est comme un cycle, on récolte ce qu'on sème. Mais la prière va juste faire récolter plus de fruits à la gloire de Dieu. Et pour notre bien aussi commun. C'est tout le temps ça, hein? On dirait qu'on embarque facilement là, quand quelqu'un commence à parler là, de situation, puis là, ah, ici, nanana, puis c'est juste naturellement que là, ah oui, c'est vrai, hein, c'est juste, ça va juste de soi, on dirait. Mais dans la souffrance, on est appelé à prier. Et la prière change les choses. Il y a plein de choses, puis ici, Jacques parle au verset 14. La prière de foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera. C'est un des ministères principaux de Jésus. Il dit, en voyant leur foi, quand que des gens qui ont amené le paralytique à Jésus, en voyant leur foi, ben, il dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Lève-toi, marche et marche. Et l'idée des anciens d'avoir quelqu'un de plus mature dans la foi aussi, peut nous amener, des fois, quand que nous, on est dans notre immaturité, des fois, comme on est, moi le premier, quelqu'un qui va nous ramener avec sagesse vers le Seigneur. Et donc, la prière agit. Et c'est pourquoi qu'au verset 16, il va dire, avouez, on pourrait dire aussi, confessez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin d'être guéri. Moi, quand je lisais ça, je me disais, eh ouais, c'est quand la dernière fois que j'ai confessé un péché à un frère ou une sœur? Quand la dernière fois que j'ai fait ça? C'est pas que d'avouer notre faute va venir changer quelque chose à l'œuvre de Jésus, mais c'est quand la dernière fois que j'ai ouvert mon cœur sur qu'est-ce qu'il y avait réellement à l'intérieur. Parce qu'on est tous indirectement liés les uns aux autres. Ce que vous vivez, les autres, on le vit. Que Jérémie et Mélanie vivent avec leurs enfants ou avec plein de choses, on les vit. Et que ce soit une maladie ou autre chose, on la vit tous ensemble. Mais la prière et la confession restaurent, guérit et nous restaurent dans le sens, peut-être des fois oui physiquement, mais aussi spirituellement comme moyen d'humilité. Moi j'ai besoin de ça, j'ai deux de mes amis avec qui on a fait notre parcours de bac, notre bac en théologie, deux amis où est-ce qu'on se rencontre à l'occasion, puis c'est quoi qui se passe là, comme dans ta vie? Parce que, un peu pour nous garder dans l'humilité, parce qu'on sait que du moins qu'il y a quelque chose qui reste caché, et là, inévitablement, là, l'ennemi utilise ça, puis il nous ramasse, il nous écrase dans les choses qui sont cachées. Mais l'amour couvre une multitude de fautes. En sachant ça, et on devrait avoir cette place-là aussi dans l'Église, puis dans nos groupes vie peut-être, dans nos groupes vie, de voir, OK, Seigneur, frères et sœurs, je lutte avec ça en ce moment. pas de juste déverser son sac pour se plaindre, mais pouvez-vous prier pour moi? Parce que cette telle chose-là est difficile. Et c'est là qu'on voit le corps de Christ à l'œuvre, dans l'entraide. Et il faut être prêt à s'accueillir les uns les autres. Des fois, on peut être malaisé, peut-être, parce qu'on n'a pas l'habitude. Et ça serait un autre bon sujet, comment bien se recevoir dans la grâce puis dans l'amour. Mais juste l'écoute, la prière. Et parce que ça change les choses. Ça change les choses. La foi, la prière de foi reste jamais sans fruit. Et ça parle même de l'idée d'avoir de la ferveur, d'avoir de la ferveur, de la passion. C'est de l'enthousiasme aussi. Une foi, une prière qui est comme en action. Et il mentionne l'exemple d'Élie. L'exemple d'Élie. On peut prier le Seigneur parce qu'il entend. Parce qu'il nous entend. Et comme laboureur, tu sais, quelqu'un peut venir tout faire préparer son champ, tout faire ses semences, tout. En fait, on va lire au verset 17 avant. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et qu'il n'ait pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il a de nouveau prié, et le ciel a donné de la pluie, et la terre a produit son fruit. Après 3 ans et 6 mois, je fais juste, ça fait 35 minutes que je parle, puis j'ai la gorge sèche. Et là, ça c'est cet épisode-là se trouve dans 1 Roi au chapitre 18, si vous voulez le voir plus cette semaine. Mais qu'est-ce qu'on fait si on laboure, mais il n'y a jamais de pluie qui arrive. Et on n'a aucun autre choix que de se mettre à genoux. De se mettre à genoux pour implorer le Seigneur d'envoyer la pluie en son temps. Parce que, au final, c'est le Seigneur qui est au contrôle de toutes choses. Ça ne dépend pas de moi. Je vais faire toutes les bonnes choses. Je vais tout faire ce qu'il faut faire. Mais au final, si je ne dépends pas du Seigneur au quotidien, être la source de ma force, mais tout, c'est sûr que je tombe. Si celui qui se croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Quand on est à genoux, c'est plus difficile de tomber. Parce qu'on l'est déjà. Et donc, c'est ça aussi, comme Église, un appel à la foi, un appel à être à genoux ensemble, à implorer le Seigneur. Et la prière change réellement les choses. Et Élie, c'était pas un extraterrestre, c'était pas un demi-dieu. Élie était un homme de la même nature que nous. Et Dieu entend et exauce autant les prières de l'un que de l'autre. Et le contexte, qui était vraiment aussi intéressant, c'est l'épisode où est-ce que Dieu a envoyé le feu descendre du ciel sur les prophètes, parce qu'il disait, mon Dieu, c'est le vrai Dieu. Priez votre faux Dieu qui envoie de la pluie, puis on verra bien qui a le dernier mot. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont fait toutes sortes de tralala, toutes sortes de choses, jamais sans que la pluie tombe. Parce que il y a juste un seul vrai Dieu. Un seul, et qui est l'Éternel, l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin, le lion et l'agneau, le maître de l'univers. Et le Dieu qu'on invoque ce matin, juste ce matin, ensemble, il est vivant, les amis. Dieu est vivant. C'est pour ça que la prière change les choses. Parce que Dieu, on a Dieu qui répond. Pas toujours comme peut-être on le voudrait, mais en sachant que la réponse que le Seigneur me donne, c'est celle que je désire au final. Ça va être celle-là que je veux prier. Et donc, est-ce que... Moi, ça m'a amené à me questionner. Est-ce que je crois encore que Dieu peut faire des miracles aujourd'hui? Est-ce que je crois que Dieu est encore Dieu? Je crois-tu qu'il peut changer les choses? Qu'il peut guérir? Qu'il peut ramener un fils à lui? Je suis tellement, tellement reconnaissant et gloire à Dieu pour Sébastien, le fils à Marie-Claude. Sa vie. Donne sa vie au Seigneur. Est-ce que je crois que Dieu peut transformer mes enfants encore, qu'il peut toucher leur cœur, les attirer? Est-ce que... Ou est-ce que je doute peut-être ce matin que je doute que Dieu peut faire cette chose-là? Et c'est facile, on dirait pour moi, de douter. Tellement facile. Ou des fois, c'est pas nécessairement que je crois pas que Dieu peut le faire, mais j'ai pas nécessairement le désir qui change les choses. J'ai pas nécessairement le désir. Je suis un peu comme un de mes défis, souvent passif face aux choses qui arrivent. C'est pas que je crois pas que Dieu peut le faire, mais je reste là un peu de façon neutre, mais comme... Seigneur, qui met un feu en nous, qui brûle de voir à l'œuvre dans nos vies, de le voir à l'œuvre autour de nous. Et c'est ça, il s'adresse à la communauté croyante. Si Dieu n'est pas à l'œuvre au milieu des croyants, c'est la première place qu'on veut le voir à l'œuvre. Pour notre ville aussi, pour nos foyers, nos familles. Et il termine en disant, mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, j'ai skippé une coupe de phrases. Mais sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. Et ça finit drôlement comme ça, sa lettre. Mais patiente. On est patient ce matin. Il n'y a pas de souci. Ah oui, c'est ça. Ça va te revenir là, dans pas long, Benoît. Mais tout ça, pour terminer, il y a un théologien, un pasteur puis un missionnaire que je lis un livre puis qui disait la persévérance est liée, la persévérance là, pour notre foi est liée à une vie de repentance et de louange. La persévérance est liée à une vie de repentance et de louange. C'est impossible de persévérer. Tu peux venir, oui, François. C'est impossible de persévérer dans notre foi sans se retourner constamment vers Dieu. Sans se retourner constamment vers lui pour dépendre de lui dans nos défis du quotidien. Donc, il dit, appelle à patiente, le Seigneur revient bientôt. Persévère, parce que la souffrance aussi a un but. Et espère surtout, espère en Dieu parce qu'il est vivant. Dieu est vivant et il agit encore aujourd'hui. Il fait des miracles. Et on a la preuve d'un baptême qui va être célébré dimanche prochain. Et on veut se réjouir avec vous. Et il va y avoir toutes sortes de choses sur votre chemin. Mais c'est pour ça que ce soir aussi, ce soir, on vous appelle à venir prier avant la réunion de membres. De 6h à 6h45, avant la réunion de membres à 7h. Parce qu'on croit, comme Église, que la prière change les choses. Puis ce n'est pas une petite décision. On veut chercher la volonté du Seigneur ensemble. Et surtout de le voir à l'œuvre parmi nous. Et donc, prions ensemble pour terminer. Seigneur, merci de ce temps. Merci pour ta parole. Merci surtout de nous tenir entre tes mains. Et je te prie pour chacun d'entre nous, particulièrement pour que notre foi, Seigneur, puisse porter du fruit en abondance pour ta gloire. Parce que notre foi, la foi, c'est quelque chose de vivant. Donc, Seigneur, utilise notre faible foi, notre petite foi. On te prie de la faire grandir. On te prie de nous transformer, Seigneur. Et pour aussi regarder à ton retour. Et Seigneur, pour quiconque, je veux te prier aussi pour quiconque qui peut-être est en train de se prendre conscience de plusieurs choses dans son cœur sur l'état peut-être de sa foi, qui peut-être sans vie. Mais Seigneur, toi, tu veux donner la vie en abondance. Toi, tu veux qu'on vit juste venir à toi. Tu es plein de tendresse, plein de compassion. Je te prie, Seigneur, que chacun puisse venir à toi. Pas rester fixé sur ses souffrances, mais fixé sur pas les souffrances qui sont temporaires, mais la gloire qui est éternelle. Alors, protège chacun d'entre nous. Et c'est dans le nom précieux de ton Fils qu'on te prie. Amen.